Tu peux répéter ça.
Hein?
Tu peux répéter cela.
Il faut que je répète, me dit Joël. Non, mais je pense qu'effectivement, on peut définir l'humour comme étant le parfum de l'esprit. Bien, je vais lire la règle 6. Que le groupe sache que la vie est une et que rien ne pourra jamais prendre ou atteindre cette vie. Là, vous avez le principe de l'hylozoïsme, à savoir que tout est vie et qu'il n'y a qu'une seule vie. Bien évidemment, si on part de cette notion de la vie une, on comprend qu'il doit y avoir la diversité, autrement que serait triste la manifestation si tout le monde était sur le même moule. Mais par le fait que chaque vie s'autodétermine dès l'instant où elle a la soi-conscience, eh bien, elle agit sur les trois aspects de la vie, c'est-à-dire sur la manifestation de la forme, sur la conscience et sur l'esprit. Et que cette autodétermination, qui bien évidemment est inclue dans un ensemble plus vaste qu'on appelle la famille, qu'on appelle la sous-race, qu'on appelle la race, donne les différenciations. Gabriel, tu envisages de réduire encore ta manifestation dans la vie suivante ? Tu te concentres. Hein. Non, mais on réalise en fait toute la richesse de la vie quand on voit qu'en fait chaque être s'autodétermine dans sa manifestation en choisissant à la fois son apparence, mais aussi le bocal de vie dans lequel il va évoluer ou involuer. Que le groupe connaisse la vie éclatante, flamboyante, pénétrante qui inonde le quatrième quand le cinquième est connu, le cinquième se nourrit du quatrième. Alors bien évidemment, quatrième, cinquième, c'est les règnes. Et on a la perspective, bien évidemment, de la splendeur de la vie quand on saura l'assumer dans les aspects supérieurs, c'est-à-dire le vrai, le beau, le bien, le pur. Et nous mesurons malheureusement, tristement, les bas-fonds où nous sommes actuellement. Chacun de nous est invité à chaque jour, à chaque instant, à être rayonnant de cette vie qui est en nous et qui en fait s'ouvre à notre éveil et réalisation. Que le groupe fondu dans le cinquième, ce qui veut dire que nous sommes dans l'humanité. Dans le cinquième, c'est le royaume des âmes. Ce qui veut dire que nous sommes dans la conscience des êtres de lumière que nous sommes en réalité. Se nourrissent du sixième et du septième. C'est une autre façon de comprendre ce que je vous ai expliqué ce matin, à savoir que lorsque l'être a rejoint sa racine de vie, en fait, il est un canal dans l'océan de vie. Le sixième règne, c'est tous les êtres qui sont à la maison du Père. Et le septième, c'est plus particulièrement la partie supérieure de cette assemblée autour du Seigneur du monde.
C'est quoi le septième ?
Le septième est fait de tous les êtres qui appartiennent à la partie supérieure du conseil, de la chambre du conseil de Shambhala. Il faut savoir qu'à l'origine, quand la hiérarchie céleste est venue, c'était autour du Seigneur du monde, ils étaient 108.
Tiens.
Depuis 18 millions d'années, des origines, il n'en reste que 5. Et je parle de la hiérarchie humaine, hein, je ne parle pas de la hiérarchie libique. Hein. Et les 104, j'ai dit 5, mais...
108, donc il en reste 103.
C'est 4 exotériques.
Oui, oui. Et il en reste... donc les 104 ont été successivement remplacés par des êtres qui sont entrés dans la chambre du conseil. Mais les... Comment ?
Dans la maison du Père.
Oui.
Mais ceux qui ont été remplacés, que sont-ils devenus ?
Ils sont partis plus loin.
Ah oui, ils sont expansés.
Ils sont partis dans quelques confins de l'univers, générer la vie dans une autre planète, un autre système solaire. Quand tu sors du cinquième règne, tu prends l'évolution supérieure, tu peux choisir par exemple le sentier de service terrestre et tu vas aller dans quelques systèmes solaires aux confins de l'univers pour faire partie de la hiérarchie des guides de cette planète.
Cette hiérarchie des guides, elle se présente sous forme d'énergie ou de conscience ou... Enfin,
Quand tu sors du cinquième règne, comme tel, l'être est maître de sa manifestation. Ce qui veut dire qu'il se crée un corps à volonté.
Un corps matériel.
Un corps d'apparence à volonté. Quand tu quittes le règne humain, soit parce que tu as terminé, soit parce que tu as fini ton service volontaire, tu as un corps de substance lumière. C'est la forme fondamentale de ta racine de vie sous son aspect manifestation. Et tu te crées un corps d'apparence à volonté, que ce corps ne peut pas être distingué pour un être humain d'un corps classique. Mais ce corps est déplaçable à volonté. Hein, vous savez que l'exemple historique le plus connu, c'est le comte de Saint-Germain qui était le matin à Versailles et l'après-midi à Saint-Pétersbourg. Mais il avait peut-être son supersonique personnel.
Mais ça, comme pour rester sur la Terre, on se crée...
Enfin, non.
Pour aller dans les autres lieux.
Mais oui, c'est ta faculté, tu es en racine de vie et voilà, tu te manifestes à ta volonté.
Et
En fait, il faut comprendre que la traversée du règne humain, c'est pour rentrer dans le club des sages, en d'autres termes, dans l'harmonie céleste, et par conséquent, l'aspect véhicule apparence est secondaire. Mais c'est ce qui fait qu'un être apparaît à volonté.
C'est cet être qui apparaît à volonté, c'est sous toute forme, ou c'est forcément un enfant qui devient adulte.
Non, ce que tu évoques, c'est justement le processus obligatoire de reprendre. Alors, bien évidemment, des guides pour être de façon permanente parmi les hommes peuvent très bien choisir de passer par la prise d'un véhicule enfant, voilà. Mais d'une façon plus habituelle et sans ce choix d'opportunité de service, eh bien ils ont ce qu'on appelle le Maya Virupa, c'est-à-dire le corps d'apparence. C'est ce qu'a eu Bélé quand elle s'est fait secouer les puces. Par Koutoumi. Hein, elle était un jour d'office, ses parents dans le château, ses parents étaient à l'office, et d'un seul coup, dans le salon où elle était, elle a senti une présence. Elle s'est retournée et il y avait un haut personnage enturbanné, hindou, avec des yeux très bleus, et qui lui a dit: ma chère enfant, vous ne pourrez jamais assumer ce que vous avez assumé si vous continuez dans cette insouciance. Il a tourné les talons. Elle est restée quoi? Et puis après, elle a couru, majordome, maître d'hôtel, vous avez laissé rentrer quelqu'un, c'est quoi tout ça? Et en fait, on n'a vu personne. Voilà. Hein? Il faut comprendre que l'esprit est maître de la matière et de la forme. Alors, que le groupe fondu dans le cinquième se nourrisse du sixième et du septième, bah, ça veut dire, en fait, s'imprègne de la richesse de conscience et de vie de ces êtres plus avancés dans l'évolution. Qu'ils comprennent que les règles mineures sont des règles du temps et de l'espace, et ne peuvent retenir le groupe. Ils continuent d'avancer dans la vie. En fait, le temps, c'est l'obligation d'être en charge de vie mineure, et par conséquent de les faire évoluer. La finalité, c'est de sortir de cette obligation. L'espace, l'espace, c'est le fait que on n'a pas cette liberté d'omniprésence. Là, nous sommes à la notion de synthèse. La particularité de cet aspect, c'est que ça concerne la vie qui va de l'avant. Vous savez que la mère est en rotation dans son mouvement, que le fils est en spirale, et le père va de l'avant. Et que c'est l'aspect qui caractérise la volonté de l'aspect père. La volonté, elle a, au niveau monadique, elle a trois aspects. Le premier, et ça sur tous les rayons. Hein. Le premier aspect, c'est d'aller. En avant avec le processus de ce qui régule la marche. C'est-à-dire que la racine de vie régule la progression pour qu'elle se fasse harmonieusement. En d'autres termes, la racine de vie peut freiner la marche de l'être. Alors, quand on sait que les disciples sont classés entre le lièvre, le crabe et la tortue, eh bien, la racine de vie gère ce processus. Le deuxième aspect de la volonté, c'est qu'elle porte en elle l'aboutissement déjà conçu. Ce qui veut dire que l'aboutissement et la finalité est écrite. Il n'y a que égarement, je vais employer le terme monstrueux, donc le frère noir, qui lui peut se voir annihilé en tant qu'unité de conscience, la vie étant indestructible. Autrement, chaque être a en lui l'aboutissement de son dessein propre. Troisième aspect de la volonté, celui qui conquiert la mort. On va peut-être faire une parenthèse sur cette notion de mort qui, bien évidemment, est vue totalement à l'envers actuellement par l'être humain. La mort est une chose merveilleuse quand on sait que la véritable mort, c'est la venue en incarnation. Ce qui veut dire que l'être prend possession de ces mondes de réalisation. Et que la mort, c'est ce qui libère d'une forme erronée. Alors, il faut bien comprendre que quand on parle de l'esprit de mort, ce n'est pas la mort physique qui est une libération. Où la mort est négative et pratiquée par le négatif, c'est d'interrompre le cycle de manifestation, donc la progression d'évolution. L'esprit de mort, c'est cet être divin qui élimine ce qui n'est plus conforme dans le processus de progression de l'évolution. Donc ça va être essentiellement la mort d'une civilisation. Et servir la volonté du Père, c'est aussi s'offrir Tom Canal à cet aspect de la vie qui libère l'emprisonnement de l'évolution. Ça peut être une forme de croyance, ça peut être une forme de société, ça peut être une forme de civilisation. Il est bien évident qu'aujourd'hui, nous assistons à l'élimination de la société, de la civilisation, du matérialisme. Et ce que nous voyons dans les temps présents, c'est le travail de l'esprit de mort, qui est en fait le libérateur de la vie.
Mais quand tu dis esprit de mort, c'est on peut voir ça comme une entité. Il y a comme l'esprit de paix, l'esprit de joie.
Ouais, bien sûr. T'as un grand serviteur de la vie qui a comme fonction l'esprit de mort.
Qui est lié au Christ directement ?
Non, au premier aspect. Ouais. Le premier rayon détruit ce qui n'est pas conforme. Au stade d'évolution, de réalisation. Ne craignez pas cet aspect de la vie. Ça peut bouleverser, je dirais, des fausses notions d'amour, alors qu'en fait, c'est une réalité de l'amour. L'amour a comme aspect de libérer l'être. Une civilisation connaîtra un processus de destruction dès l'instant où elle n'est plus conforme. Si on veut parler des formes, comme nous sommes encore dans l'aveuglement de nos spécialistes, préserver les animaux, oui. Mais vouloir retenir une forme animale qui est en voie naturelle de retrait de disparition, c'est aller à contre-courant. En d'autres termes, vous imaginez si on avait préservé les dinosaures. Dinosaures. Hein ? Tu te rends compte, Gabriel, tu serais venu être son dinosaure. Hein ?
Là,
t'aurais vraiment disparu dans ton char, là. Hein. Ouais. Non, mais essayez de... Je taquine là-dessus, c'est pour que vous compreniez bien qu'il faut voir ça dans le bon sens, en fait.
Oui, d'accord. Mais il y a quand même des animaux qu'on fait disparaître inconsciemment, parce que...
Oui, bah, la guerre mondiale, elle a fait disparaître aussi beaucoup d'animaux. Hein. Non, il y a une nuance, je comprends très bien. Que font les frères noirs ? Les frères noirs ne veulent pas qu'il y ait évolution. Et ils s'emploient en tuant quelqu'un, ils s'emploient à lui casser sa vie en évolution pour ne pas progresser. Mais ça, c'est la destruction négative. L'esprit de mort, c'est l'opposé. Oui. L'esprit de mort ne va pas percuter quelqu'un simplement. Non, c'est ça qui. C'est qu'en fait, c'est une notion complètement erronée. Hein? Mais à l'inverse, il faut bien comprendre que lorsqu'un être a fait son cycle, l'acharnement thérapeutique, là, on est dans le négatif. L'être a décidé de se retirer, il a décidé. Il faut respecter ça.
Mais les frères noirs, ils détournent certains aspects de l'esprit de mort, non ?
En toute chose, tu as l'opposé. Alors évidemment, quand on parle de mort, forcément que tu as d'un côté en positif cet agent qui libère la vie emprisonnée. Et puis de l'autre côté, tu as, à l'opposé, on tue la manifestation pour empêcher l'évolution.
Mais on ne peut pas tuer la vie.
Indestructible.
Voilà.
Inattaquable.
Mm-hmm. Donc, ils échouent, les frères noirs.
Mais c'est cher.
Ils cassent l'évolution.
Les frères noirs, c'est un cancer de l'humanité.
Ouais.
Mais c'est aussi l'aiguillon du bien.
Et l'esprit de mort n'a pas du tout d'action sur ces personnages ?
L'esprit de mort est amour et positif. Donc il ne va pas détruire pour détruire. Tu ne peux pas combattre le négatif par le négatif.
Oui, mais alors si c'est un cancer, il va se multiplier, donc...
Ben oui, mais l'humanité, il a les mêmes phénomènes en retour de comportement. Ah, si les hommes ne s'étaient pas allés au négatif, ils n'auraient pas connu les maladies.
C'est fait pour te faire réagir.
Donc en définitive, si tu veux, le négatif, c'est l'aiguillon du bien. Hein? Mais on en paye cher le prix. On peut éteindre les trucs, que je vous explique quelque chose. Alignement. Tu es un canal pour là-haut. Quand tu rentres dans le petit détail, tu limites complètement ta portée de travail.
Parce que tu focalises sur un seul cible.
Donc dans son cas là, dans le cas de Procopédie, qu'est-ce qu'il faut... J'ai coupé la parole à quelqu'un.
Bah, dans ce cas-là ou dans un autre, sur le principe, il faut se mettre dans un état bienveillant, si possible en méditant. Mais on peut méditer rien que de développer un sourire en face d'une personne, c'est une forme de méditation si ça a un but sacré et de bonne volonté. Ce qu'il faut, c'est que chacun soit rayonnant pour permettre à l'eau de rayonner par ton canal propre et de groupe. La vibration, que ce soit au niveau, atmique, bouddhique, mental, astral ou éthérique, qui soit après de façon sensibilisée pour que je la masse, entre guillemets, de l'homme, chacun puisse le capter.
Mais, alors celui qui est dans le mental, il réclame là-haut quelque chose pour cette...
C'est ce qu'on appelle la phase d'invocation.
Bah, tu as plein de gens de bonne volonté qui aspirent à un monde meilleur. Tu sais comme moi que tous les gens à peu près sains sont là à dire on va dans le mur.
Ouais.
Bah, oui. Bon. Je peux te dire, pour être plus précis, fin novembre, l'esprit de mort nous a informé qu'il allait agiter le cocotier. Moyennant quoi nos politiques européens et compagnie du monde entier sont tous à dire on pouvait rien prévoir ce qui allait se passer. Voilà. Donc c'est pas fini.
Mais Jewel Cool précise bien que le disciple doit être un être humain sans bras. C'est-à-dire rayonnant par son antakarana propre pour être un nadis au niveau mondial. Et c'est par ce rayonnement-là que l'ensemble des humains pourront, par des principes de filtration, vu qu'on descend à chaque fois la tension magnétique, ils peuvent être sensibilisés. Et là, les aides de bonne volonté seront impressionnables. Mais il faut... tout est un rôle d'équilibre entre l'esprit et la matière. Et il y a des relais de filtration entre chaque, et chacun, à son niveau, doit, sur son chemin, trouver sa place et sa façon d'interpréter les choses. Mais encore une fois, ce n'est qu'un conseil, et chacun doit le faire comme il le ressent par son expérience.
Oui, parce qu'on a plus l'impression que c'est le mal qui casse la toile.
Bah, c'est ça, mais il faut bien se dire que le négatif ne pourra pas être combattu par le négatif, et il n'y a qu'en apportant de la lumière que l'ombre on peut reculer. Donc c'est par le rayonnement individuel et de groupe. On ne parle pas seulement de groupe physique, ça peut être un processus de pensée ou de bonne volonté. C'est ce qu'on appelle le nouveau groupe des sénateurs du monde qui fera reculer le négatif en apportant la lumière.
L'importance sur les élections.
Non.
Ce qu'il faut bien se dire, c'est que lorsqu'il y a un aspect comme ça par rapport à des idéologies ou des organismes, là-haut ne privilégieront jamais une seule polarité par rapport à... Il y a des aides de bonne volonté partout. Ce qu'il faut essayer, c'est de rayonner la lumière et les aides de bonne volonté dans chaque partie, entre guillemets, par exemple. Chaque ensemble, chaque idéologie s'y sensibilisera, et à ce moment-là, c'est l'ensemble qui avancera, mais pas un seul, c'est pas de séparativité.
C'est c'est dans la conception de, du travail qu'il faut être bien au fait des choses. On ne va pas, par exemple, aider mentalement tel parti politique ou tel parti politique.
Non, non, non.
Qu'est-ce qu'on fait ? On dit, on nourrit l'énergie qui va faire progresser la société de justes relations humaines. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'on doit, agir comme le soleil qui ne dirige pas précisément ses rayons à tel endroit. On rayonne, hein, et puis voilà, simplement, je vais employer un paradoxe, effectivement, l'initié est sans bras, mais pour là-haut, nous sommes les petites mains.
Ouais.
C'est pas mal.
J'ai pas parlé de bras, hein, tu remarqueras. J'ai parlé que des mains, hein, avec des gants blancs en plus.
Bon. Et si on sert de nos bras pour faire communiquer l'information ?
Pour
communiquer l'information ?
Ah, tu veux dire ça ? Bon, non, mais ça, c'est. Attends, ça n'a rien à voir. Ça, non. À la limite, c'est permettre que circule, comme nous sommes dans ce temps, la communication et l'information. Donc ça si tu veux, chacun est libre après de dire oui, ça m'interpelle, ça m'interpelle. Ou il faut que j'aide à ce qu'il y ait plus de lumière de ce côté-là.
Hein? Non, mais on était tout à l'heure sur l'aspect Cocopelli.
Mais il ne faut pas être partisan. Il ne faut pas être partisan parce qu'il faut rester dans l'état d'esprit du Père, c'est-à-dire le bien de l'ensemble.
Et par rapport à ceux qui, dans leur chemin d'action, sont actifs physiquement, le fait de rayonner selon son ressenti ou la volonté de bien permet aussi à vous être dans sur le terrain d'être alimenté et de se ressourcer pour avoir la volonté de continuer. Parce que sinon il y a une lassitude, et lorsque l'être est entouré dans son désert avec uniquement de l'opposition, s'il n'a pas d'alimentation, il va dépérir et il aura beaucoup plus de difficultés. Donc il ne faut pas croire que uniquement procurer un relais mental ou au-dessus est inactif, alors qu'en fait c'est vraiment sur la source même de l'alimentation des êtres qui sont sur le terrain qui est important.
C'est le cas de quelqu'un comme Obama alors.
Après, il faut toujours faire attention aux apparences, à ce qu'il y a dans le fond, les marionnettes et tout ça. Il y a énormément de facteurs. Là, c'est pour ça que je parle que de principe. Moi. Je ne m'engage pas sur les... parce qu'il y a beaucoup de débats. Mais disons qu'il faut essayer de privilégier le bien de l'ensemble, du haut vers le bas et pas du bas vers le haut, qui pourrait avoir des utilisations par les négatifs à son avantage.
Tout à l'heure, qui a parlé d'un séisme important au Japon là, sachez que les secousses planétaires, comme séisme, cataclysme,
tsunami,
et séisme,
c'est l'énergie céleste qui n'a pas été absorbée en partie plus ou moins importante lors de son afflux du ciel par l'humanité. Le septième rayon qui œuvre aujourd'hui a une double détente. Elle est une énergie qui pousse en avant de façon importante l'évolution de la société, tant sur le plan matériel mais que spirituelle, ce qui veut dire que quand elle n'est pas transmuée en éveil, en progression spirituelle, la phase qui n'est pas absorbée devient destructrice. Vous ne serez pas étonné des secousses physiques sur la planète. C'est l'ordre cosmique.
C'est le trop-plein d'énergie qui n'a pas été absorbé.
Voilà, qui n'est pas transmué Et si elle est brute, eh bien, elle casse. Elle secoue.
Ça peut être à niveau individuel aussi.
Il faut considérer que ces énergies ont une portée du tout, c'est-à-dire sur l'humanité. Alors qu'ensuite tel être profite de cet afflux pour se retirer, mais ça, c'est, on va dire, c'est un aspect particulier. Mais là, je parle de dimension planétaire.
Donc juste pour finir, parce que pour moi c'était très important de comprendre ça, dans le cinquième règne, on peut dire que les personnes qui démarrent dans le cinquième règne font plus partie des êtres de bonne volonté.
Oui.
Et le cinquième règne avancé, des êtres qui...
Alors, la distinction peut être précisée de la façon suivante. Ceux qui sont dans la hiérarchie des âmes, cinquième règne, sont dans la démarche spirituelle et par conséquent des hommes de bonne volonté. C'est pour ça qu'il y a 2000 ans, le Christ dit « paix aux hommes de bonne volonté ». Il aurait pu dire « paix au cinquième règne ». Quand les êtres sont en réalisation divine, ça veut dire appréhender, intégrer ce qu'ils saisissent de la volonté du Père. Ils sont en volonté de bien de l'ensemble. Est-ce que vous voyez la différence ?
Donc dans les êtres de bonne volonté, tu as trouvé beaucoup de gens du cinquième règne, mais qui sont, dans ma perception, au front. Justement, dans du
militantisme. Ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Mais il doit y avoir, regardez, une cascade entre le Père, les Bouddhas qui l'entourent et qui sont des vies qui restent venues d'ailleurs que sur notre planète. Tous les autres sont des êtres, voilà, à part. L'avatar de synthèse et l'esprit de paix. Pour actualiser quand même Béné, hein, parce qu'on ne va pas rester bloqué aux années d'avant la guerre.
J'ai pas compris. À part l'avatar de synthèse et l'esprit de paix, c'est ça ?
Oui, parce que si vous avez bien lu Béné, à son époque, Jehoalcool invite les êtres à invoquer la venue de l'avatar de synthèse. Bon, mais on est dans les années 30. Alors depuis, eh bien, ce grand être est là. Et c'est lui qui effectue tout ce processus de synthèse des groupes. Au même titre que l'esprit de paix qui était invoqué est là.
Parce que c'était lié au contexte aussi.
C'était la phase de l'époque. Attendez, depuis, la marche de la lumière a progressé.
Il est matérialisé, cet avatar.
Attends, donne-moi ta taille que je fasse des comparaisons. Il ne peut pas descendre plus bas que le plan mental. Mais il choisit des représentants. Sais-tu ?
N'est-ce pas, Gabriel ? Elle a compris.
Tu vois, synthèse. Tu prends Thérèse, tu synthétises, ça fait thèse.
Oh,
synthèse.
Non, mais il faut bien comprendre, c'est c'est des tentatives d'ouverture que je vous donne. Il faut bien comprendre que depuis les écrits de Bellet et de Blavatsky, la marche en avant s'est poursuivie, allons. Hein, c'est poursuivi, on en est maintenant avec horizon proche, la venue de Maitreya.
Et peut-être des jeunes.
Donc, ça sera pas plus bas. Pensez des choses. Pensez des choses.
Il peut se créer n'importe quelle apparence.
Ouais, il peut passer par toi, effectivement.
Il descendra plus bas que le mental.
Ah ben, tu parles de
Maitreya.
Ah, Maitreya, non, Maitreya, il va apparaître. Maitreya, pour vous faire la confidence, il s'est préparé un Maya Virupa de 2000 ans.
Ah, il va rester.
Donc, il va revenir comme il est parti en apparition éthérique. Et il va avoir un corps tout à fait en apparence normale, mais qui sera un Maya Virupa, qu'il pourra déplacer à volonté à travers la planète. Et ce corps est préparé pour tenir 2000 ans.
Pour le Verseau.
Toute l'ère du Verseau. Voilà. Donc, il a été dit dans Bellet que, vous savez, il y a eu toute l'hypothèse de Krishnamurti, voilà, et puis. Et en fait, il a choisi de s'équiper d'un véhicule direct d'apparence. Voilà. Alors l'avatar de synthèse, c'est une grande vie, hein, très évoluée. C'est des êtres, si vous voulez, qui assistent le logos solaire et qui ne viennent sur une planète que quand le processus de sacralisation est engagé. Ce qui veut dire qu'ils peuvent commencer leur travail que quand des êtres appréhendent les trois aspects de la manifestation de la vie, c'est-à-dire l'aspect mère, l'aspect fils et l'aspect père. Alors si les uns et les autres, en faisant le point sur la marge du groupe, vous dites... Eh bien, cette notion de volonté, du bien de l'ensemble du Père, semble quelque chose en conscience commune, eh bien, ça vous permet de situer le niveau d'évolution du groupe.
On en revient à la question de tout à l'heure.
Mais il ne nous donnera pas la réponse. Hein.
C'est à vous à réfléchir. Attendez, là... c'est à vous à assumer vos responsabilités face au niveau de réalisation du groupe. Chacun doit se dire, il faut que je veille à être précieux pour le groupe.
Mais le groupe, ça peut être quelque chose de plus grand que nous, non, ça peut être quelque chose.
Oh, tu parlais d'autre chose.
Non, on parle de l'ensemble des gens, des humains.
Mais quand il évoquait le terme
là, de
toute la hiérarchie, toute la hiérarchie des âmes n'est que l'ashram de Sanat Kumara. Il n'y a qu'un seul groupe sur Terre. Simplement, pour l'instant, il y a des îlots. C'est au stade d'îlots.
Ah non.
Mais comme je l'ai évoqué avec Joël tout à l'heure, peut-être que cette année vous pourrez rencontrer des aides d'autres groupes.
Un autre îlot.
Voilà.
C'est à quel moment?
Ouais. Hein?
Le 12 décembre. Mais ce que tu as dit avant, pour bien comprendre où on est en tant que groupe, pour moi c'était très important parce que je vois notamment dans la jeunesse, chez les adolescents et les jeunes gens d'aujourd'hui, on voit qu'il y en a beaucoup plus qui sont connectés forcément. Mais il y en a plein qui se prennent, qui pensent qu'ils sont dans la bonne volonté, c'est-à-dire qu'il y a une tonique de rébellion qui est encore forte, qui est stimulée aussi par le système environnant, alors qu'en fait ils sont déjà plus loin que ça. Ils sont déjà dans le bien de l'ensemble, mais ils ne le savent pas.
Le problème, c'est que il y a une rébellion inférieure et une rébellion supérieure.
Ça veut dire.
Ben, ça veut dire que la rébellion inférieure, tu vas voir un rejet physique de la société avec dépravation, bris, voilà. Et puis le rejet, la rébellion supérieure, c'est de dire je n'accepte pas cette société d'injustice et par conséquent, je veille à nourrir des pensées d'harmonie, d'élimination de ce qui n'est pas conforme, ainsi de suite.
Alors on les pousse dans une rébellion à tendance inférieure.
Ben oui, la première réponse c'est une rébellion inférieure.
Les premiers échos ont été les années 60, avec la première sensibilisation de l'humanité dans la phase matière. Avec les principes communautaires et tout ça qui n'étaient qu'une première.
Moi j'ai un fils qui est bien dans sa démarche et il a dû comprendre que s'il voulait changer le système, il faut rentrer dedans pour l'imploser de l'intérieur. Mais pas dans le sens partisan, c'est simplement en éliminant les structures qui emprisonnent.
Ouais.
Vous savez, à terme, notre société, je vais employer un terme qui va faire bondir, mais les aides devront être des autocrates. Oui, ils devront s'autodiscipliner.
Pourquoi bondir ?
Bah parce que aujourd'hui nous sommes avec des autocrates suicidaires. Ce qui fait des anarchistes, ce qui fait. Bon voilà, mais non. Il faut savoir user du bon sens de la destruction, qui est en fait la libération, et non pas de tout casser. Mais regardez, ça bouge, hein. Regardez comment est tombé le mur de Berlin, regardez comment a volé en éclats l'URSS.
Oui.
Bon, bah aujourd'hui, c'est le monde... Voilà, c'est le monde musulman qui bouge avec, bien sûr, des réactivités du négatif par les religieux.
Mais il n'y a pas que le monde musulman qui bouge. En Europe, ça bouge beaucoup aussi. Dans le mental, ça bouge beaucoup aussi.
Ah oui, bientôt pour
le
La vie qui va de l'avant, libérée de toute forme, mais encore cependant soumise à des limitations...
C'est où là ? Moi je ne sais plus. La page 13 ? Non, c'est plus là.
Pardon ?
Quelle page ? Tu lis plus là ?
Non, je vous lis une phrase. Quand vous avez dû bien lire le document. Ah non, je ne prends pas le document. Non, je vous lis une phrase, c'est pour vous.
La Rixis.
Tu l'as ?
Rixis, tu nous l'as donné.
Oui, mais je veux dire, la phrase que je te dis, elle est perdue dans le document.
Ah oui,
redis-la la phrase, s'il te plaît.
La vie qui va de l'avant, libérée de toute forme, mais encore cependant soumise à des limitations au processus de vie. Ça veut dire que lorsqu'un être s'est libéré, il n'en reste pas moins qu'il est dans un contexte qui lui crée des limitations. Autrement, si je veux pas de limitations, je monte en haut de la tour Eiffel et je dis aux Français, voilà, vous allez voir. Bon. L'hôpital psy est pas loin.
Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas complètement libéré alors s'il y a encore des limitations ?
Mais t'es obligé de faire avec la situation présente.
Regarde la Russie, elle n'a pas réussi tout à fait.
Ah, tu peux pas. Tu peux. Si tu veux, tu prends par exemple, revenons là-dessus, le Shah d'Iran a voulu faire avancer son pays du Moyen-Âge au XXe siècle. Bah, il a généré la rupture.
Ah oui, ça y est, j'ai compris.
Tu peux pas aller trop vite ? Tu te rends compte si je te dis Chantal, tu es Dieu.
Tu l'as déjà dit, hein.
Alors c'est là où Chantal va dire, amenez-moi ma couronne, s'il vous plaît.
Non mais maintenant, il commence.
Ayez l'obligeance de m'appeler Altesse.
Non, c'est Madame Jourdan.
Non mais blague à part, il faut bien comprendre qu'on ne peut avancer que progressivement. C'est le même phénomène que pour les formes. Hein, j'ai déjà expliqué, lorsque la vie de la quatrième hiérarchie créatrice, donc les êtres de lumière que sont les hommes en réalité, a pris possession des véhicules animaux, vous imaginez ce que ça aurait donné si ces véhicules étaient des véhicules d'aujourd'hui. Hein, vaste lupanard. Et donc il faut aller progressivement, c'est-à-dire que vous avez les formes qui évoluent en conséquence. Hein ? Vous avez aujourd'hui votre chien, votre chat, ils ont pu être en son temps tigre, lion, et voilà, ils sont passés par le monde sauvage.
Ça s'affine. Ça s'affine.
Pourquoi ? Oui, mais c'est adapté. C'est adapté.
Le monde sauvage, le monde domestique.
Non, mais il est un fait que la forme la plus profonde de la sagesse, c'est la patience, parce qu'on s'aperçoit bien de quelque chose, qu'il se passe quelque chose, on voudrait aller plus vite, on voudrait libérer les choses.
Alors, Joël touche un élément fondamental lié à la volonté. Quelle est la petite sœur jumelle de la volonté ?
La patience.
Voilà. Hein, notre père, ça fait 18 millions d'années qu'il attend qu'on aime ses lois.
Mais enfin, bon, vous allez rire.
Le temps, comme tu dis, n'existe pas, puisqu'il est appelé parmi ses noms l'éternelle jeunesse. Mais il faut savoir qu'il a arrêté sa propre évolution cosmique.
Ah,
par rapport à l'échiquier universel.
C'est la même chose à une échelle beaucoup moindre que l'être qui sort du règne humain et qui tourne le dos à la maison du père en disant « Le chantier est loin d'être terminé, je retourne. » Il arrête sa propre évolution supérieure.
Oui, ce qu'il dit « Après moi, le déluge. »
Mais alors il arrive.
Gabriel, on n'a dit pas de de confidence personnelle. Y a un purgatoire dans le groupe ou pas ?
Merci Gabriel, merci d'être là.
Non, mais attends, c'est pas. Non, c'est pour se qualifier dans une dimension de l'amour cosmique qu'il a arrêté sa propre évolution en disant eh bien, je vais créer une planète qui est nécessaire dans l'évolution cosmique pour que l'ensemble de l'univers progresse. Mm-hmm.
Alors, je vous posais une question. Oui. Pourquoi avoir créé cette planète avec que des gens de merde ? En quoi ça peut terminer l'évolution sur un plan cosmique d'êtres qui sont, je suppose, plus évolués que nous qui avons été créés forcément
à la matière ? La chose qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es humain, ton chantier, il est pas mal en vie mineure.
Ouais.
Ah, les uns les autres, vous dites clarifier la personnalité, bonjour, le chantier. Bon. Notre logos planétaire, lui, il a combien de milliards d'individus à faire avancer pour obtenir son équilibre propre qui est de 3/5 de l'humanité dans le 5e règne ?
Mais pourquoi avoir créé ces gens ?
Mais parce que tu pulvérises ta vie pour donner la vie. Mais t'en es responsable.
Il ne les a pas créés, imparfaits. Il a créé des unités de vie qui ont dû utiliser des matériaux par la loi d'économie d'un précédent système solaire.
Des matières
donc,
usées.
Lui n'a pas eu la volonté directe de créer la conséquence que l'on voit. C'est juste qu'il a dû se profiler un dessin avec des règles pour lui sont des règles par rapport à des êtres cosmiques au-dessus, mais avec on va dire un carcan déjà établi par rapport à ce qu'il y avait du précédent système. Et toute la logique globale est bien plus vaste, avec beaucoup plus de complexité que ce qui est évoqué là. Mais c'est un autre sujet. Mais disons qu'on ne voit aujourd'hui que les conséquences d'un échiquier à 7 dimensions, on va dire même à 49 dimensions si on prend l'aspect cosmique. Et il faut pas se figer sur le sujet.
Le logos planétaire doit remplir son contrat de vie en sacralisant la planète. C'est-à-dire à ce que sa volonté soit assumée sur sa manifestation. Imagine la dimension qui concerne un logos solaire. Imagine la dimension d'un logos cosmique qui, lui, a 7 systèmes solaires à faire sacraliser. C'est-à-dire que plus tu progresses en tant que vie, plus tu te trouves avec un contrat de vie gigantesque. T'as des myriades de vies mineures, le logos planétaire, il y a des milliards d'êtres humains à faire avancer dans la sagesse, c'est-à-dire à faire sortir du cinquième règne. Ouais. Alors bien sûr, l'échelle du temps n'est pas la même, mais le contrat de vie, il est conséquent. Pourquoi évolution au mérite? Un logos planétaire doit devenir un logos solaire. Il doit se qualifier. Idem pour le logos solaire, devenir un logos cosmique. Alors, quand tu sais que les écarts de conscience entre un logos planétaire et un logos solaire, et ça, perdez pas de vue, hein, parce que vous allez dire, ouais, c'est vite fait, il y a autant d'écarts proportionnellement qu'entre nous, êtres humains, et la conscience d'un minéral. Est-ce que vous voyez les écarts?
Oui, c'est ce qu'ils disent là dans le point 3. Voilà.
Alors, il faut se débattre de cette vie. Donc, c'est pour ça, si vous voulez. Alors, bien sûr, c'est un challenge à la portée de ces grandes vies, mais il n'en reste pas moins que essayons de saisir ce qu'est déjà la difficulté pour l'être humain de s'assumer en tant qu'être. Hein, et vous voyez ce que ça donne après, à l'échelon d'une planète ou à l'échelon d'un système solaire.
Et puis nous, dans le quotidien, on ne voit qu'entre guillemets que la boue du marécage dans notre quotidien. Mais il faut bien se dire là-haut que par rapport au dessin qui est fixé, de leur point de vue, ça ne demande qu'à être cristallisé pour devenir diamant. Donc il ne faut pas non plus être limité dans les horizons d'avancée.
Alors là, on voit les devoirs. Mais au niveau des droits, si je puis dire ainsi, imaginez l'écart de splendeur d'une conscience d'un minéral par rapport à un être humain. Vous imaginez les splendeurs universelles qu'attendent les grandes vies cosmiques au fur et à mesure de leur progression.
Il y a des minéraux qui ont une belle splendeur, hein. Hein? Il y a des minéraux dans une belle splendeur.
Ouais, ouais, mais je parle de conscience, hein, je parle pas d'apparence.
Ah, d'accord.
De
matière. Mais en fait, est-ce qu'il y a la correspondance à l'intérieur de nous, on a un père planétaire, un père solaire, un logos solaire et un logos cosmique.
Tu vas même jusqu'aux sept univers, ouais. Puisque la vie vient des sept univers. Donc, tu as une parcelle de la vie.
Il n'y a qu'une seule vie, donc.
Tu as une parcelle de la vie. Tu dois remonter.
Ouais, mais j'avais jamais vu comme ça que pour mes vies mineures,
tu es un dieu.
Qui sont mes atomes, etc., qui correspondent ensuite à mes trois corps, les devas qui correspondent à mes trois corps, j'ai la responsabilité d'un père planétaire, d'un logos solaire et d'un logos cosmique.
Qu'est-ce que tu entends quand tu dis « j'ai la responsabilité » c'est-à-dire
c'est le même mécanisme qu'entre moi en tant qu'électron du père terrestre, du père solaire.
Oui, mais à ton échelle. Mais à ton échelle. À ton échelle.
Par rapport à ton âme et ta racine.
T'es un dieu.
Ce que l'homme doit bien saisir, c'est qu'il n'est pas son apparence. Ton apparence, c'est comme ta voiture.
C'est un véhicule.
C'est ton véhicule. C'est quand l'aide se retire, il abandonne son véhicule. C'est pour ça qu'il est dit ça, c'est de la poussière, on s'en fout.
Ah d'accord.
Faut le respecter.
Ah bah on les a en charge, mais comprenons ce que ça veut dire.
Il n'y a pas de prime à la casse.
Quoique.
Non, mais alors en fait, c'est ça que je voulais demander. C'est que le père terrestre en moi, il a en charge quoi? C'est mon corps physique?
Non. Il a en charge ta racine de vie.
Pour ta racine de vie, à partir du plan mental et de l'âme, c'est les marécages.
Ok.
La hiérarchie des âmes en charge ton être.
Toujours faire attention aux échelles.
Et quand tu es en tant qu'être, donc fusionné avec ta présence terrestre, donc, eh bien, là, tu t'en vas au Père, c'est-à-dire que ta racine de vie que tu vas intégrer est dans l'âme de l'homme céleste. Est-ce que vous voyez le positionnement d'échelle ?
Moi, contre le haut, ça va, mais c'est contre le bas que je ne capte pas.
Bah, le bas, t'as un véhicule physique qui est double, t'as un véhicule émotionnel et t'as un véhicule mental. Bon, et bien ça, c'est tes mondes de manifestation, c'est pas toi.
C'est ça,
ouais. C'est pas toi. C'est la même chose, je prends un exemple, dirais réducteur. Mais c'est la même chose qu'un président de société, eh ben, il a toute sa structure humaine, tous ses bâtiments, tous ses outils. Il est lui-même quand même, indépendamment de tout ça.
La gestion.
Tu comprends ? Donc, ta réalité, c'est toi, une vie en évolution au stade humain, traversée du règne humain. Ensuite, tu as tout le processus de contrat de vie qui est greffé dans ton évolution. Donc, il ne faut pas confondre. Et l'aveuglement, c'est justement d'avoir la tête en bas parce que tu penses être ça. Ça, c'est un véhicule fonctionnel composé de vie mineure dont tu as la charge. La distinction d'unité, hein, on parle d'unité de synthèse, elle part de là. Ça, ce n'est pas moi.
C'est pareil pour le logos planétaire, ça, la Terre, c'est pas lui. Et pour le logos solaire, ça, le Soleil et son système, c'est pas lui. Et pour le logos cosmique,
oui, mais, cet système oui, solaire, mais c'est à pas ça, lui. Mais à ça, il va te dire, la petite vie mineure qui est en toi, c'est moi. Voilà. Ah, mais au niveau de la vie. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, moi, quand un être peut dire, moi, Dieu, je suis matière, il a conscience de la matière, mais il est au ciel. Est-ce que vous voyez la subtilité ? Et c'est pour ça que si vous lisez l'astrologie ésotérique, je n'ai pas la page précisément, dans les textes archaïques, il est un passage, il est dit, je résume un peu ce qui est évoqué avant, hein, et c'est ainsi que le plus petit sur cette petite terre devient le plus grand des dieux, parce qu'il a retrouvé sa source, mais consciemment. Vous trouverez ça dans l'astrologie. C'est là où vous voyez le côté merveilleux de l'aventure. Parce que si vous rentrez, qu'est-ce que c'est que Sambala ? Sambala, c'est un champ de conscience. La maison du Père, c'est un champ de conscience. Bon, quand vous êtes en conscience de l'intelligence du cœur, vous êtes en conscience du logos planétaire. Quand vous êtes en amour sagesse, vous êtes en conscience du logos solaire. Quand vous êtes en la volonté de bien de l'ensemble, vous êtes en conscience cosmique. Ça vous surprend, hein, ce que je dis là.
Hein. Et là, ce que tu dis là, c'est ce qu'il disait là dans la règle numéro 6, c'est la loi de...
Comment ? J'ai pas débordé.
La loi d'analogie, en fait.
Tu fais bien de me le dire.
Pardon. La loi d'analogie.
Bien sûr. Essayez de comprendre le côté merveilleux, il n'y a qu'une seule vie dans ces myriades d'expressions. Le tout, c'est de remonter dans la dimension originelle, mais en conscience.
On a tellement l'habitude d'écouter avec notre personnalité. C'est pour ça que ça ne passe pas les couches. On devrait écouter à partir de cet endroit-là.
Oui, c'est pour ça que les cartes, tu as l'homme pendu la tête en bas, parce qu'il voit tout à l'envers. Pardon ?
Ou à l'endroit selon la direction.
Ouais, bon, enfin, là aujourd'hui, l'homme il voit tout à l'envers. Je reprends la mort, mais la mort c'est quelque chose de merveilleux, l'esprit de mort. Hein, quand l'homme comprendra que quand le bébé est né, l'être meurt à sa dimension de lumière. Qu'Abel devient qu'un. Et il faut que Caïn renaisse à Abel.
Mais c'est quand même un acte merveilleux de venir travailler pour justement épurer. Pour épurer, je dirais.
Oui, parce que la quatrième hiérarchie créatrice, c'est des seigneurs de dévotion et de sacrifice. Et là, vous retrouvez mysticisme et occultiste. Les vies de la quatrième hiérarchie créatrice sont appelées les seigneurs de dévotion et de sacrifice, de dévotion incessante et de sacrifice. Oui, mais regardez comment le leurre et l'illusion sont mis en place. L'être est éternel aujourd'hui. Avec une seule vie, il se trouve très bien. Tranquille. Bon, le document, vous l'avez, tout ça. Je voudrais aborder avec vous ce que j'ai fait ajouter. Par contre, c'est concernant les sept rayons sur leur aspect volonté. Alors, je vous envoie à la page 2, en dessous du tableau 10. Et je vais demander à Joël de nous en faire la lecture, s'il veut bien.
Oui. Nous examinons comment la force de Shambhala s'exprime en termes de volonté, c'est-à-dire comment elle traduit l'intention divine, l'attente, dans la pensée de Dieu.
Attends, depuis, stop. Vous soulignez l'attente.
T'as encore un texte, Joël ?
Pardon ?
T'as encore un texte comme ça ?
Oui, ça m'arrive, oui.
T'en as deux ?
Ouais. Je sais pas, je suis pas sûr. Non, merci.
Bon, pourquoi l'attente ? C'est parce qu'en fait, la vie supérieure est une potentialité qui attend que sa manifestation l'exprime. Ce qui veut dire qu'une grande vie s'auto-limite à sa manifestation.
Et son expression.
Vas-y.
L'intention divine latente dans la pensée de Dieu depuis le commencement des temps à l'aube de la création. Dans la pensée de Dieu, cette idée est vue dans son entier.
Point. Là, on rejoint ce que je vous exprimais sous l'aspect, deuxième aspect de la volonté, c'est-à-dire que le dessein est arrêté depuis le commencement. Y compris pour Dieu que nous sommes.
Dans la manifestation, elle est une activité progressive, évolutive et démontrée. Nous savons quelque chose de l'aspect intelligence de Dieu. Il se révèle dans l'activité vivante de la substance. Ce qu'est l'amour de ce grand penseur, nous ne l'apprenons que lentement. La révélation atteint le niveau où l'espoir humain peut confronter son mode d'activité réel avec l'amour visualisé et perçu de la divinité exprimée jusqu'à présent par l'aspiration à de justes relations humaines et le traitement équitable de tout ce qui n'est pas humain. De la volonté et de l'intention de Dieu, l'humanité ne sait rien, car soit la volonté individuelle, soit la volonté collective de l'humanité, qui pourrait agir comme interprète et révélatrice de la volonté divine, et aussi lui servir de pont et de lien avec la divinité, sont employés pour des fins égoïstes et voilent ainsi les plus hautes cimes de l'expression divine. Le soi-disant acquiescement de l'humanité à la volonté de Dieu est basé sur son désir de vivre sa vie, sur sa négativité et sur les visions des saints. La caractéristique fondamentale de ces derniers était la soumission de leur plus haut point de contact spirituel, étant encore nuancé de dualisme et conditionné par les méthodes d'interprétation humaine.
Oui, attends, quoi vous voyez ce qu'on a fait du Père, qui est un seigneur d'amour cosmique, et dont on a fait un personnage punissant, la crâne de Dieu. Je ne m'étends pas.
D'après la méthode occulte, nous devons commencer par l'universel et le tout. En tant qu'utile, l'individuel et le particulier seront révélés, mais en rapport avec le tout. Il devrait être possible, par l'étude des sept rayons et des constellations s'y rapportant, ainsi que de leurs agents transmetteurs, les planètes, d'obtenir une idée générale de l'épanchement de l'énergie de Shambhala qui se traduit sur le plan physique comme un but émergent.
Point. Vous êtes là avec la concordance de voir du haut vers le bas et cesser de voir de l'individuel vers le haut. La synthèse qui va accompagner la pénétration de la volonté divine implique la notion de l'unité dans le tout. Aujourd'hui, le groupe que vous êtes a cet horizon devant lui. Arriver à l'unité de l'ensemble. Bon, après, voyez-vous, je l'ai évoqué, la volonté qui conditionne la vie, la volonté qui aboutit à l'accomplissement et la volonté qui contient la mort. Donc je vous invite à ça pour que vous ayez à développer sur ce qui est l'aspect volonté des sept rayons. Il faut bien comprendre que chaque rayon a ses aspects. Alors, le premier rayon, c'est ce qui incite à l'initiation, c'est-à-dire à la marche en avant soutenue. Le deuxième rayon, c'est lié à l'unification, mais c'est aussi le pouvoir de voir. En d'autres termes, de voir un but, de l'atteindre, de voir un autre but, de l'atteindre, c'est-à-dire de progresser sans cesse. Le troisième rayon...
C'est la clairvision, quoi.
Bah, la clairvision définit en fait une vue pleine de réelle compréhension. Mais là, on est dans la vision qui nous mène jusqu'à la pénétration des dessins. Parce qu'en fait, c'est lié au deuxième rayon qui unit les deux pôles de la vie, et tu vois par conséquent que tu auras une vision verticale, mais aussi une vision horizontale. La vision verticale, c'est de monter au rendez-vous de la vie. La vision horizontale, c'est de la mettre en application. Alors, le troisième rayon, c'est ce qui va transformer l'instinct en connaissance, la connaissance en sagesse et la sagesse en omniscience. En parcourant ensemble le livre de la connaissance, le livre de la sagesse et le livre de la vie, nous avançons dans l'omniscience. Le quatrième rayon, j'attire votre attention sur le quatrième, puisque c'est le rayon de la hiérarchie humaine. C'est la volonté d'illuminer, dont la première marche est l'intuition. C'est-à-dire, et là vous allez être surpris, l'accès à la réalité sans passer par le mental. Au-delà, vous avez l'impression. L'impression, ben, c'est lorsque une grande vie vous impressionne, vous projette la saisie de la réalité, ou l'expression de la réalité. L'être est sous impression.
C'est un adombrement, ça ?
L'adombrement est une phase plus particulière, puisque l'adombrement, ce qui est le cas des instructeurs, la plupart du temps, il met ce qu'on appelle le pilote automatique. Mmh. Qui est à bord, on ne sait pas. Lui sait, mais vous, vous ne savez pas forcément.
Si lui sait, c'est
essentiel. Ah, pas sûr. Mais il faut pas voir ça comme quelque chose de particulier, hein, non, simplement, voilà.
Bernard, une petite parenthèse, tu évoques que l'intuition ne passe pas par le mental.
Ouais.
Il me semblait bien pourtant que l'intuition se mettait en œuvre dès le mental supérieur.
C'est-à-dire que le mental christique, pour parler autrement, qu'on appelle intuition, bien sûr, va user comme véhicule le mental. Mais en fait, il le court-circuite. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas le mental se mettre en positif. Le mental devient récepteur. Donc il ne fait que véhiculer. Hein, c'est ça qu'il faut saisir.
Tout l'intérêt du silence.
C'est là aussi où il y a le plan émotionnel aussi qui a été complètement nettoyé.
Asséché. Asséché.
Qui va vivre. Ouais.
Asséché. Alors, le cinquième rayon, son aspect supérieur, c'est la semence de la libération. C'est un agent de la destruction, mais qui détruit ce qui emprisonne, qui freine. Quand vous avez un seigneur de libération, en fait, il travaille sur le cinquième rayon. Le sixième, c'est la faculté de construire des formes pensées, le besoin de créer. Derrière ça se cache l'imagination créatrice. Il faut comprendre que la vie, c'est se servir du négatif pour le transformer en positif. Et tout ce qui est l'agitation émotionnel, Kama Manas, doit être transmué en imagination créatrice. C'est-à-dire la faculté de cueillir des réalités subtiles supérieures. Et le septième rayon, c'est ce qui gère en conformité la pensée divine. En d'autres termes, c'est l'ordre cosmique. Alors, je vous invite à étudier ce document pour vous familiariser avec les aspects de la volonté. Étant entendu que le but de la synthèse, c'est que vous intégriez en vous les sept aspects de la volonté divine. Hein, je rappelle que les sept rayons donnent la lumière blanche. Et qu'il n'y a pas un rayon qui est supérieur à un autre, mais par contre, la finalité, comme pour les influences zodiacales, les 12 doivent fusionner en 7 et les 7 en 1. Les planètes ont leur propre influence, notamment sur la forme. Les planètes sacrées, plus particulièrement sur la conscience, mais avec, en étant canal aux énergies zodiacales. Et quand on est en racine de vie, les influences liées à l'aspect volonté divine viennent des 10 constellations majeures. Regardez ces grandes vies célestes comme autant de corps de manifestation de grandes vies cosmiques évoluées qui participent à la progression de l'ensemble. Ce document, il devrait être pour vous maintenant quelque chose de permanent à côté de tout le travail que nous allons poursuivre. Il faut que ça devienne vraiment un document de chevet.
Le tableau sur les 7 aspects des volontés.
Là, le document sur les 7 rayons aspects volonté.
Vous avez eu les deux. Il y avait deux fichiers.
Mais je ne sais pas si tu l'as déjà fait, si c'est pas qu'il en a. Dans le tableau, c'est quoi les planètes exotériques et ésotériques?
Ça, il faudrait que je fasse une parenthèse. C'est-à-dire que, en deux mots, selon un stade d'évolution réalisé, il faut changer d'influence planétaire.
On passe à l'ésotérique.
L'exotérique, c'est surtout l'adaptation des véhicules de manifestation. L'ésotérique, c'est plus lié à l'aspect épanouissement de conscience et réalisation de l'être.
Alors l'astrologie, pour nous, c'est plus astrologie ésotérique.
Tu as à avoir l'équilibre équilatéral des trois aspects. Trois aspects. Tu dois avoir une forme cristalline, ça veut dire épuration de tes véhicules. Tu dois avoir une lumière resplendissante de conscience et un diamant en tant qu'esprit. Et tu dois être équilatéral et pas dire seulement ça. Alors bien sûr, après tu as des fusions, c'est-à-dire que ta personnalité, hein, la forme c'est la personnalité, elle est maintenant intégrée dans l'être de lumière, et puis après tu es en dualité, c'est-à-dire la présence terrestre avec ta racine de vie là-haut. Voilà, et tu dois devenir le point. Point sans ligne. Sans ligne. Vous me ferez sans ligne. Vous avez des questions ?
Merci.
Je vous invite à un petit travail plus précis d'alignement.
Bien sûr.